Vous avez commencé votre carrière en tant que photojournaliste, notamment pour Libération, et vous êtes spécialisé à l'époque dans le portrait. Qu'est-ce qui vous transporte dans le travail du portrait ?
Ce qui me plaît dans le portrait, c'est la rencontre et être projeté jour après jour dans des milieux, des univers différents. Quand j'étais en commande pour Libération, pour Le Monde ou pour le New York Times, je pouvais me retrouver le matin dans la cuisine d'un grand chef et l'après-midi dans le bureau du secrétaire de l'Élysée, par exemple. Et puis le lendemain, au cœur d'une manif, avec un rendez-vous chez un sans-papier. Voilà, c'est cette diversité de regard sur le monde, quoi.
Et lors de l'exposition, une salle est consacrée à votre témoignage concernant le portrait des personnes issues de l'élite française et internationale notamment. Vous y expliquez vos pensées, vos ressentis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous placez en tant que photojournaliste face à des personnalités importantes comme Nicolas Sarkozy par exemple ?
Moi, j'ai toujours du mal à me revendiquer photojournaliste, même si je travaillais pour des journaux. J'avais avant tout une approche de photographe, c'est-à-dire essayer de travailler la représentation d'une personne à travers une séance photo, sans volonté d'éditorialiser cette image, c'est-à-dire sans volonté d'y donner un sens plutôt qu'un autre, mais être au plus près de la sensation que j'avais à côtoyer ces personnes. Voilà. Comment est-ce que je me positionne face à Nicolas Sarkozy, c'est avant tout un contre-positionnement, si je puis me permettre, c'est-à-dire éviter de faire une photo dont il pourrait se servir pour sa prochaine affiche de campagne, par exemple. Ça ne veut pas dire que je suis pour ou contre Nicolas Sarkozy, ça veut dire que j'essaye d'aller au-delà de ce que lui voudrait bien me donner. Voilà. Donc essayer de fissurer un peu ce masque de communication que tous les puissants me proposaient.
Et dans les faits, comment vous faisiez pour déconstruire cette image, justement, qu'il et elle voulaient vous donner ?
Eh bien, c'est un sport de combat, c'est-à-dire qu'il faut boxer pour essayer de fissurer au fur et à mesure cette armure. Et donc chaque photographe a ses propres techniques pour y arriver. Moi, c'est à travers le corps, en fait, les postures et la contrainte sur le corps que je proposais de mettre en place avec mes modèles, plutôt que de leur proposer une expression sur le visage. Je préférais positionner les corps et leur demander d'engager un peu de tension avec les bras ou un ancrage particulier dans le sol. Et cette contrainte et ce rapport au corps, progressivement, par capillarité, se retrouvera sur le visage. Voilà. Et générera une expression qu'ensuite j'aurai plus qu'à cueillir.
Ok. Est-ce que vous avez résidé à Paris ?
Oui, j'ai habité et travaillé une quinzaine d'années à Paris. Ouais. C'est à ce moment-là que je travaillais comme photographe pour les magazines.
Et du coup, vous avez fréquenté un peu les grands de ce pays, de ce monde. Vous avez habité à Paris pendant un moment, et puis là, vous débarquez dans la campagne bretonne. Vous découvrez comment une seule activité économique, la pêche, façonne tout un territoire. Vous faites connaissance avec une spiritualité très forte. C'est un peu deux mondes, deux ambiances, Paris et le pays du Bigoudin. Comment avez-vous fait face à ce changement de paysage et de modèle ?
D'abord, c'était un désir. Donc, il fallait que je quitte Paris parce que j'en avais fait le tour et parce que j'avais envie, à 40 ans, avec deux enfants, d'un nouveau départ. La répétition des commandes de photos, même si elles sont valorisantes et intéressantes, elles finissent par être par générer de la lassitude, en tout cas chez moi. Et j'ai senti la nécessité d'aller voir ailleurs, et un ailleurs complètement différent. Alors, pour tout vous dire, avant de décider de s'installer à Pamar, à la pointe sud du Finistère, on avait commencé par essayer de s'installer à São Paulo, au Brésil. Au bout d'un mois, on s'est rendu compte que c'était pas la vie qu'on voulait mener, puisque j'avais l'intention de m'attaquer à des projets plus personnels, plus intimes, sans avoir de pression financières trop importantes. Et à São Paulo, comme plus tard à San Francisco, c'était pas les endroits les mieux choisis, voilà. Et en 2015, lorsque le festival photo de la Gacilly m'a proposé de travailler sur une commande liée à l'alimentation et au territoire, et ben, je suis parti en road trip en Bretagne, dans la Bretagne alimentaire, chez les petits producteurs, les gros producteurs, les usines. Et on s'est retrouvé avec ma compagne dans son village natal, à Pamar. Et on s'est dit qu'on cherchait... On cherchait l'exotisme et le dépaysement par-delà les océans, et que finalement c'était un peu en bas de chez nous, à 3h30 de train à Pamar, que ça pouvait bien matcher avec nos envies. Et donc on a décidé 3 mois plus tard de s'y installer et de commencer notre nouvelle vie, moi comme photographe plutôt auteur du coup, et ma compagne comme... Comme réalisatrice et enquêtrice, voilà.
D'accord. Et ça vous a brusqué le changement de décor, de modèle ?
Pas du tout, pas du tout. Je pense que ça faisait longtemps que j'aspirais à un peu plus de plénitude, un peu plus d'oisiveté, en fait. J'ai trouvé qu'à Paris, rétrospectivement, en fait, on est toujours dans l'action et toujours dans une espèce d'énergie collective à avancer, et j'ai bien aimé à la découverte du Pays Bigoudin, j'ai bien aimé balader gratuitement, regarder passer le temps, les nuages, les trains de houle, voilà, et cette oisiveté momentanée a été une source d'inspiration importante pour moi.
Et ça s'est ressenti dans votre exposition. D'ailleurs, j'avais une question. Comment vous avez fait pour réussir à rentrer en contact avec les personnes que vous avez photographiées, à faire en sorte qu'ils acceptent, qu'ils vous acceptent en fait dans leur intimité, et qu'ils acceptent de se livrer sur leurs croyances, entre autres ?
Alors, il y a plusieurs étapes. La première, c'est s'immerger sur le territoire, y passer du temps, être aperçu en fait. Progressivement faire partie du paysage. La deuxième étape, c'est une fois que vous êtes un peu dans le paysage, c'est comment rentrer chez les gens, comment être intégré dans la communauté. Et moi, je fonctionne un peu toujours de la même manière. J'essaie d'identifier quelqu'un qui a de l'influence, qui est un peu leader de cette communauté, et réussir à le convaincre par mes images et mon projet, et puis lui demander de me guider au sein de cette communauté. Et c'est ce que j'ai fait dans le Pays Bigoudin, dans le secteur de la pêche, comme dans les Monts d'Arrée, pour la série des Enchanteurs, où j'ai été guidé par une jeune comédienne et chanteuse qui s'appelle Marion Gouen, qui a grandi à Bottmeur, qui vit toujours, très bretonnante, et qui a un réseau d'amis, de collègues, très important sur le territoire des Monts d'Arrée, et qui a accepté de m'ouvrir les portes de son univers.
Et ça vous a pris beaucoup de temps
de se faire accepter dans le paysage. Les premières fois où je suis allé dans les Monts d'Arrée, je suis resté à la porte, quoi. Je suis resté dans ma voiture. Je sentais bien qu'il y avait une méfiance des gens, d'une part vis-à-vis d'un photographe, d'autre part vis-à-vis du sujet que je pouvais traiter, c'est-à-dire les légendes. Les gens avaient peur que, à travers mes images, je renforce le cliché breton, un peu à la mode brocéliande, là, et qu'on transforme les Monts d'Arrée, et que je puisse contribuer à transformer les Monts d'Arrée en une sorte de Disneyland des légendes, quoi. C'est encore une question que je me pose aujourd'hui. Est-ce que mon travail n'a pas tendance à inciter des gens à aller dans les Monts d'Arrée pour des mauvaises raisons? Quand on est photographe et que notre travail est amené à être diffusé, on se pose toujours la question de l'impact que ça peut avoir sur le territoire qu'on a photographié, quoi.
Ces personnes que vous avez photographiées ont vu votre travail, les Enchanteurs, les séries de portraits, les Enchanteurs ?
Alors, ils ont chacun vu les portraits les concernant. Mais comme l'expo vient d'ouvrir, ils n'ont pas encore tous vu l'ensemble du travail. Certains ont vu le livre parce que j'ai envoyé le livre à la majorité des modèles, des gens que j'ai rencontrés. Mais ils n'ont pas encore vu l'expo, qui est encore une autre expérience, je trouve.
D'ailleurs, Western, c'est une exposition qui rassemble 3 séries de photos réalisées en Bretagne avec l'équipage, les Mois Noirs et les Enchanteurs que vous avez évoqués. Dans les Mois Noirs, vous vous concentrez sur le monde de la pêche. Il y a une petite anecdote assez cocasse, je trouve, par rapport à ce sujet. C'est qu'au départ, vous désirez partir en mer avec les pêcheurs, mais vous êtes vite rendu compte que vous aviez le mal de mer. Est-ce que vous avez décidé de vous mettre... de mettre en avant le monde de la pêche sur Terre. Mais est-ce que vous vous êtes demandé si au final votre mal de mer, c'était pas un mal pour un bien?
Si, je pense que ça m'a, vous avez raison, ça m'a sauvé en fait. Hein. Ça m'a mis sur une piste de travail que j'aurais peut-être pas explorée sinon. Quand on arrive sur la côte du Pays Bigoudin, on est évidemment fasciné par ces chalutiers qui partent et reviennent tous les jours et les hauturiers qui toutes les 3 semaines sont en rotation dans l'Atlantique Nord. Et évidemment, c'est le fantasme de pouvoir embarquer et partir à l'aventure avec eux. Je pense que ça m'a sauvé parce que photographiquement, c'est très délicat à photographier la pêche, je trouve. On manque d'espace, il n'y a pas de recul, le photographe est toujours gênant. C'est une photographie très éculée en fait, et je pense que je me serais un petit peu noyé dans ces images de pêche. Et grâce à mon mal de mer, et ben j'ai découvert un univers que j'ai trouvé tout aussi fascinant et encore plus secret, qui est l'univers de la pêche à terre, c'est-à-dire des gens dont le métier est généré par l'activité des marins en mer. Donc les forgerons, les conserveries, les magasins de marée, les chantiers navals, chantier naval bois, chantier naval métal. Tout un univers du travail qui m'a beaucoup plu.
Et dans cette série de portraits, vous imitez en avant les clients et les clientes d'un bar. Certains de ces portraits sont accompagnés d'un paysage sonore. Comment avez-vous réussi à acquérir la confiance de ces habitants et ces habitantes? Est-ce que vous avez fait pareil, trouver une personne un peu qui est le sage de l'endroit pour réaliser ces portraits? Est-ce que vous avez fait face à certaines difficultés?
Alors en fait, la première série de photos que j'ai réalisées pour l'équipage, la première série a eu lieu dans un bar à Pamar qui s'appelle le Nautilus. Bar dans lequel on connaissait bien le patron. Ma compagne est originaire de ce village et avait fréquenté ces endroits avant moi. Et donc, on avait déjà une piste d'entrée. Et ce patron de bar, Jean-Yves Lemarc, était lui aussi artiste peintre. Et nous a mis en confiance et a réussi à mettre en confiance une partie de sa clientèle en l'invitant à venir poser devant mon objectif. Et même si certains n'étaient pas très enthousiastes au départ, encore une fois, il y a une personnalité assez forte de ce groupe de d'habitués du Nautilus, une de ces personnalités qui s'appelle Jean-Jacques, qui est un ancien pêcheur, et qui, lui, a accepté immédiatement et, du coup, a embarqué tout le monde derrière lui, quoi. Voilà. Donc, ça a été 2 jours de portraits incessants qui a marqué la première étape de mon travail personnel sur le Pays Bigoudin. Bien avant que je m'y installe, d'ailleurs.
D'accord. Et dans votre exposition, nous pouvons voir aussi votre investissement dans les paysages, avec une technique assez différente des portraits. Ce qui vous sort un peu de votre spécialité. Et comment avez-vous travaillé sur ces paysages?
Contrairement au portrait, c'est plus difficile de modeler un paysage à son image. Donc j'ai dû réapprendre et me familiariser avec cette autre discipline de la photographie qui est le paysage, en y passant beaucoup plus de temps. Et le réalisme en photographie m'ennuie plutôt. J'ai pas envie que le paysage que je photographie ressemble à ce que j'ai vu, mais j'ai plutôt envie qu'on ressente ce que j'ai vu à ce moment-là. Et donc, j'utilise des techniques photographiques à ma disposition, le flou, le bouger, la pluie, la saleté sur l'objectif, qui va permettre de créer une troisième dimension à la photographie, une sorte d'épaisseur émotionnelle, quoi.
Dans la série Enchanteur, nous pouvons imaginer des références aux techniques cinématographiques de David Lynch ou encore des frères Coen. Est-ce que ce sont des cinéastes qui vous ont inspiré dans votre pratique ?
Tout à fait, vous avez vu juste. Ce que j'ai beaucoup aimé chez David Lynch, c'est l'étrangeté de chacun de ses personnages. Une de mes premières séries de photos, ça s'appelait Le Royaume. C'est un travail photographique sur un petit territoire dans le nord-est des États-Unis, à l'exact opposé de l'endroit où est censé se situer le petit village dans lequel Twin Peaks a été tourné, la première série de David Lynch. Et j'avais beaucoup aimé Twin Peaks, et je pense que d'abord inconsciemment, puis au fur et à mesure consciemment, j'ai essayé de reproduire cet univers un peu déglingué, pas toujours intelligible de la série puis des films de David Lynch.
Vous expliquez que vous venez d'un milieu très rationaliste, et là vous êtes confronté à la spiritualité bretonne. Quels ont été vos ressentis premiers face à cette découverte d'une autre approche de l'être humain et des forces qui l'entourent ?
La première réaction, c'est d'abord de l'incrédulité. J'ai une formation d'ingénieur, j'ai un père médecin militaire, j'ai une éducation très cartésienne et avec assez peu de place à la spiritualité. Et donc, me retrouver ici sur un gros rocher de granit avec toutes ces ondes et ces gens chargés de spiritualité, j'y ai pas beaucoup cru au départ, hein, quand notre voisine à Pamar avait un studio d'enregistrement pour enregistrer la parole des morts, pour la transmettre aux vivants, je l'ai pas vraiment prise au sérieux. Et puis au fur et à mesure, vivant immergé sur le territoire, ayant des expériences de vie différentes de celles que je pouvais vivre à Paris, et ben je me suis familiarisé avec ça et progressivement. J'ai pu ressentir des choses qui peuvent me laisser penser, à croire que, en tout cas, qui ont pu faire vaciller mon rationalisme chevillé au corps, quoi.
Au départ, vous avez pensé à l'accrochage de vos photos de manière très linéaire, avec un format assez classique, avec le même pour tous les tirages. Mais ayant vu votre exposition, j'ai remarqué que ce n'était pas le cas. Pourquoi avez-vous choisi de changer de format ?
Les formats en photographie, c'est l'outil qui permet de rythmer une exposition. Et donc, comme vous l'avez vu, les champs libres ont mis à disposition une salle assez majestueuse, et la linéarité avait tendance à réduire cet espace-là. J'avais envie que les photos puissent occuper tout l'espace, puissent se déployer correctement. Et donc, en variant les formats, en variant les associations, de temps en temps les images sont regroupées par 4, par 5, certaines images sont seules, on crée un rythme et surtout on crée du récit, parce que chaque image a un statut différent et communique avec celle d'avant et avec la suivante, et c'est cette communication qui crée de la fiction, quoi.
Et vous avez beaucoup travaillé aussi au niveau de la lumière ?
L'éclairage de la salle, ouais.
De l'éclairage, ouais.
Alors,
ouais.
Moi, j'ai beaucoup travaillé, mais surtout, je rends hommage au chef électro des Champs Libres qui a suivi ce qui m'intéressait en lumière et qui a eu grâce. C'est bien un des seuls avantages de la pandémie, c'est qu'on a eu le temps de mettre en place un éclairage très ciselé et très précis sur chacune des séries, en fait. Je voulais vraiment qu'on rentre dans un univers à chaque fois qui soit dédié à ces séries-là, voilà. Qui soit différent de l'une à l'autre et qu'on ait l'impression d'être descendu à la cave un petit peu, d'avoir changé d'espace-temps.
Un peu comme vous avez changé de monde entre Paris et la Bretagne.
Tout à fait, ouais. Et puis entre moi j'habite en Pays Bigoudin, mais les monts d'Arrée, c'est pas du tout la même ambiance. Hein. J'avais l'impression, à chaque fois que je revenais des monts d'Arrée, que je faisais la route avant d'arriver à Pamar, j'avais l'impression de me diriger vers la Côte d'Azur, quoi. Les monts d'Arrée, c'est un monde en soi que j'ai trouvé par moments accueillant, souvent oppressant par sa géographie, oppressant par sa météorologie et par les gens que j'ai pu y rencontrer.
D'ailleurs, votre exposition était prévue il y a déjà un an, mais ça a été reporté en raison du coup de la situation sanitaire. Que ressentez-vous lorsque vous voyez que l'exposition est enfin finalisée et ouverte au public ?
C'est un grand soulagement. C'est comme une sorte de gestation qui aurait duré 18 au lieu de 9 mois. Et donc, je commençais à m'alourdir sérieusement, intellectuellement, de ne pas pouvoir donner vie à cette expo me plombait au plus haut point. Et je me souviens il y a 6 mois, quand on commençait à accrocher l'exposition, j'étais venu à Rennes passer quelques jours, j'étais seul dans le musée avec les techniciens qui accrochaient. C'était des moments assez forts, et puis hop, se retrouver en ville tout de suite après, alors que les magasins comme H&M, Zara étaient ouverts et que les gens faisaient la queue pour y accéder, j'ai une sorte de nausée qui m'a tenu quelques semaines encore après, en me disant que la culture avait été largement sacrifiée sur l'autel du capitalisme.
Ça, c'est pas faux. Et je me demandais, est-ce que vous avez d'autres projets en cours ?
Écoutez, ce soir, je vernis une autre expo importante à Douarnenez, au Port-Musée, où on retrouve aussi des séries comme l'équipage Les Enchanteurs, mais une autre série est réalisée en résidence à Douarnenez sur l'univers du travail manuel là-bas. Les Enchanteurs, dont vous avez pu voir les images au Champ Libre, seront exposés aussi à Arles, à la galerie du magasin de jouets, tout l'été. Et puis je reviendrai à Rennes à la rentrée pour une expo à Chartres de Bretagne au Carré d'Art. Voilà. Une expo qui reprendra d'autres images de séries différentes comme Le Royaume dont je vous ai parlé aux États-Unis, des images de la Comédie française et plus un peu plus d'images de presse aussi.
Bon, plein de beaux projets en perspective alors.